Europe Matin.
6h, 9h. Lionel Gougelot.
8h45, c'est l'heure du Club de la Presse d'Europe 1. Bonjour Ariane Amadi.
Bonjour.
Experte en communication politique, en ligne avec nous Mathieu Souquer, essayiste et consultant, expert associé à la Fondation Jaurès. Bonjour Mathieu Souquer.
Bonjour.
Alors
bonjour
madame,
à tous.
Monsieur, l'actualité, forcément, c'est la disparition hier soir du roi Pelé. On l'évoquait avec Stéphane Rosès il y a quelques instants, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Ariane Amadi, Mathieu Souquer, que finalement il est assez rare qu'une personnalité fasse l'objet comme ça d'une telle unanimité, d'une telle communion à l'occasion de sa disparition. Ariane Amadi, votre sentiment, je sais que vous aimez beaucoup le foot.
Oui, j'aime beaucoup le foot. Je vais retenir un mot que vous venez de prononcer qui est communion. C'est vrai que ce qui est rare aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de mythologique autour d'un personnage. Et il est vrai que le foot est encore, et là on a vu avec les audiences que ça marche toujours autant, le seul aujourd'hui opium, si vous voulez, qui de façon populaire marche pour avoir cet effet-là. Et évidemment, le premier, je pense, si vous voulez, une des premiers critères, c'est que, un, pour jouer au foot, il faut juste des pieds. Et même un caillou.
Oui, ou un caillou, oui.
Enfin, oui, vous voyez, je veux dire, dans l'idée. Et deux, c'est, et moi je réfléchis beaucoup en termes de culture populaire, qui aujourd'hui, artiste, politique, intellectuel, peut réunir dans une même salle pour une conférence, pour un concert, etc., des grands-parents, des parents et des ados. Le foot. Voilà.
Cette communion, Mathieu Souquer, on l'avait un petit peu observé après le décès de la reine Elisabeth II.
Oui, alors effectivement, on parle souvent de la mondialisation et souvent de façon critique. Notons que s'il y a une mondialisation des économies, il y a aussi une mondialisation de la communication, une mondialisation de l'information et même une mondialisation des émotions. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui vivre à l'unisson dans le monde entier et en même temps les mêmes événements et donc aussi les mêmes émotions. D'une certaine façon, on l'avait vécu avec le Covid il y a 2 ou 3 ans où l'humanité dans son entièreté, dans son intégralité, avait vécu la même histoire et avait vécu le même récit de cette histoire semblable. Avec le foot, en version positive, on vit exactement la même chose. Et donc, effectivement, on a à travers la figure de Pelé, une icône mondiale et derrière, au moment de son décès, une émotion qui est mondiale.
Et ça, malgré les quelques petites zones d'ombre finalement de la personnalité, parce qu'après le foot il a été aussi embarqué par les sponsors américains, il a fait de la politique, enfin voilà quoi, il n'est pas blanc-bleu, il y a quand même quelques aspérités, Ariane Amadi.
Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est en fait l'histoire aujourd'hui encore du foot, c'est-à-dire qu'il y aurait la perversion du foot dans sa valeur vraie, et en fait on excuse ça aux footballeurs, là où à des politiques, à des artistes, des intellectuels qui seraient pervertis par un système, etc., ouais. On l'excuse beaucoup moins, parce que le foot, et c'est pour ça que je parlais de valeurs mythologiques ou mystiques, a pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, après il y en a qui n'ont rien à faire, ils ont tout à fait aussi leur mythologie, sûr, ouais. Enfin je veux dire, je ne sais pas qui écoute, mais en tout cas pourquoi vous m'interviewez, c'est qu'en fait, ça raconte une histoire, en fait. Et ça raconte une histoire qui traverse les temps et les époques, et qui traverse même l'argent, la mondialisation, etc., avec, et ça c'est très très rare, l'idée, c'est ce que disait votre invité, que le résidu, c'est le désir, l'envie d'être ensemble, et surtout des trajectoires de gens issus des fois des favelas, etc., qui, à la force de leur travail, réussissent.
Alors, il y a une coïncidence, Mathieu Souquer, je ne sais pas si vous... Enfin, j'imagine que vous l'avez noté, c'est que 3 jours de deuil ont été décidés au Brésil, alors même que l'investiture du président Lula devait se faire ce week-end, justement, dans une ambiance de fête. Alors certes, sous haute surveillance, parce qu'on connaît les problèmes de sécurité qu'il y a au Brésil, mais voilà, quoi, ces deux événements vont s'entrechoquer de façon quand même assez étonnante.
Oui, alors on peut même se dire que parfois le sport et les grandes émotions populaires nées autour du sport ont un impact infiniment plus important, plus massif que les événements qui ont trait à la politique. En tout cas, cette affaire donne pour partie tort à ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques jours ou quelques semaines au moment de la Coupe du Monde, en disant que le sport et la politique devaient être deux univers totalement dissociés. Non, En réalité, le sport et la politique ont parti liés et on voit qu'un calendrier sportif et un calendrier politique peuvent à un instant T se télescoper.
On imagine en tout cas le trouble finalement dans lequel va se retrouver le peuple brésilien. Bon, en tout cas pour une partie de ce peuple qui va fêter la victoire de Lula et puis qui va pleurer la mort de Pelé, Ariane Amadi.
Oui, mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est, si je reprends, enfin, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est un pays comme le Brésil, avec, évidemment, une histoire politique, on va dire, pas des plus simples,
ah non,
pour
évidemment.
Le dire de façon... Il y a, et c'est ce que disait l'autre invité, c'est la question du conflit de mémoire et de mythologie. En réalité, même pour ceux qui, évidemment, par l'urgence, veulent que Lula gagne, etc., je veux dire, à un moment, les trois jours de deuil national vont... objectivement effacer pour beaucoup la question politique. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que moi je pense que là, si vous voulez, il y a quelque chose dans le mythe d'intemporel.
On change de sujet. On change de sujet, si vous le voulez bien. On va revenir sur cette affaire du Covid et de l'ouverture des frontières en Chine. Face à la menace d'une nouvelle circulation du Covid, du fait donc de la réouverture des frontières par Pékin, l'Europe a décidé de ne rien décider, finalement, dans une espèce d'atermoiement qui laisse songeur. Quelle analyse vous faites, vous, de cette séquence, Ariane Amadi ?
Alors, la première analyse, qui est peut-être basique, mais qui mérite d'être faite, c'est que pour les gens, je pense qu'ils ont l'impression d'un espèce de revival, un peu de film d'horreur, quoi. Mmh. Et ça, il ne faut déjà pas le minimiser juste dans la communication apportée. Parce que tout politique aujourd'hui sait, après les 2 ans qu'on a passés, qu'il n'y a pas de droit à l'erreur possible.
Parce qu'il y a une sensibilité extrême de l'opinion, des opinions en règle générale.
Mais même vous et moi, je veux dire, vous entendez parler à nouveau Covid, Chine, virus. Il y a comme des red flags, j'ai envie de dire, des signaux rouges qui s'alarment. Donc ça veut dire que le politique, quel qu'il soit, a cette pression de devoir bien anticiper.
Et justement, là, il n'y a pas de réponse.
Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu un objet plus géopolitique, j'ai envie de dire, qui est que les États-Unis ont tranché directement. Certaines voix, notamment l'Italie, parce qu'elle est complètement traumatisée, a tranché. Et c'est toujours la question de l'Europe. Pourquoi, en fait, le délai de réponse, même s'il va être trouvé, et aujourd'hui, il y a une réunion, est toujours... Et c'est normal, puisqu'on est plus nombreux et qu'il faut un consensus un peu plus tardif.
Ouais.
Pour les gens, je veux dire.
Oui, voilà, c'est ça. Mathieu Souquer, pour les peuples européens, pour les opinions européennes, cette espèce de lenteur, elle peut être néfaste, finalement ?
Oui, alors, je ne sais pas, mais pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'il y a même dans la formulation de la question quelque chose d'un peu biaisé. En réalité, les autorités sanitaires européennes se sont réunies. Elles se réunissent. Il y a quand même une forme de coordination, en tout cas, entre les pays européens sur les réponses à apporter. En particulier, quand même, en tirant les enseignements d'une forme de désorganisation qu'on avait pu observer il y a 3 ans. Et encore, je dirais même que la désorganisation d'il y a 3 ans, elle avait été rapidement surmontée. Non, là, les autorités sanitaires européennes, elles se sont réunies. Et je note quand même qu'à l'exception de l'Italie, qui effectivement use d'une voix un peu discordante en la matière, les différentes autorités sanitaires associées stade, en tout cas, n'alerte pas quant à l'urgence. Il y a une situation d'urgence en Chine, mais la situation sanitaire précisément en Chine est tout à fait différente de celle qu'on observe en Europe. Et se réunissant et discutant hier, les autorités sanitaires européennes ont effectivement confirmé qu'il n'y avait pas d'urgence pour l'Europe à ce stade. Et qu'en tout état de cause, la question de la fermeture des frontières, implicitement posée par l'Italie, n'était pas du tout à l'ordre du jour. Qu'elle ne constituerait aucunement aujourd'hui une réponse sanitaire efficace.
Donc vous êtes d'accord.
Cela en n'étant pas du tout un spécialiste des questions de santé, mais en entendant ce que disent précisément les autorités sanitaires européennes et je dirais même françaises.
Oui, certains spécialistes également qui estiment que compte tenu de la couverture vaccinale en Europe, il n'y a pas lieu de paniquer, quoi, d'une certaine façon, qu'on peut se laisser un peu de temps plutôt que de réagir en panique.
Encore une fois, c'est toute la différence avec la situation d'aujourd'hui et celle d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, la question de la fermeture des frontières ou en tout cas de la régulation des mobilités était posée car nous ne disposions pas de vaccins et par ailleurs nous savions que nous avions des capacités hospitalières qui pourraient être très rapidement saturées. Et d'ailleurs, on est passé pas très loin du mur. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente et j'entendais un certain nombre de grands médecins s'exprimer ces jours-ci en disant que la meilleure réponse aujourd'hui n'était aucunement la fermeture des frontières ou en tout cas la régulation d'un certain nombre d'avions qui pourraient venir en provenance de Chine, mais juste, encore une fois, les rappels de vaccination.
Mais ça, Ariane Amadi, il va falloir l'expliquer.
Voilà, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit l'invité. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est
la perception qu'on
des sujets d'une sensibilité extrême pour les gens. Vous êtes la déconnexion entre le phénomène de peur, qui est d'ailleurs très peu contrôlable en général, et la capacité à un discours de crise de répondre rapidement et d'être audible. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Après, la question, c'est un, et c'est pour ça qu'ils se réunissent avec une communication assez globale pour montrer que cette coopération est actée, c'est de faire en sorte que les populations européennes, quoi qu'il se passe, j'ai envie de dire, pas quoi qu'il en coûte, aient le sentiment que la dynamique d'anticipation a été faite pour que, si jamais il y a des difficultés ou des nouvelles restrictions au niveau, je ne sais pas, des circulations, etc., ce soit légitime, justifié et adapté, enfin on va dire proportionné au danger.
Mais justement, compte tenu de ce que vient de dire Ariane Amadi, Mathieu Souquer, est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un signe peut-être un peu plus fort de prise en compte de la menace et du fait que, effectivement, les autorités, notamment au niveau européen, mettent en œuvre des mesures qui seront de nature à protéger les populations?
Alors, je crois qu'il faut quand même agir de façon rationnelle. Et du coup, si on reste et au niveau de la communication et au niveau de l'opinion, ce qu'on note, c'est que, probablement parce que l'opinion n'a pas un cerveau suffisamment large pour embrasser 4 ou 5 problématiques majeures en même temps, ce qu'on note, c'est qu'en termes de préoccupation aujourd'hui, la question sanitaire a été considérablement reléguée. Vous avez aujourd'hui, en réalité, et toutes les enquêtes d'opinion l'attestent, une préoccupation qui s'est imposée de façon écrasante. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà de nombreux mois, et c'était le cas au moment de la campagne présidentielle, la question du pouvoir d'achat écrase toutes les autres. Parce que derrière, il y a effectivement la question énergétique, et je dirais même sous-jacente, la question diplomatique. Vous avez aujourd'hui 2 Français sur 3 qui pensent que le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait dégénérer en 3e guerre mondiale. Donc je dirais que dans l'ordre des angoisses, dans l'ordre des peurs, il y a effectivement la question du pouvoir d'achat ou la situation géopolitique mondiale qui, à ce stade, inquiète bien davantage que la situation sanitaire mondiale.
Un dernier mot, Ariane Amadi.
Oui, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un amoncellement de priorités, et ça, il n'y a pas de doute. Juste, moi, tout ce que je pense et dis, c'est que d'un point de vue politique, il y a toujours avec le Covid un spectre de responsabilité dans l'anticipation. Il y avait eu même vous vous rappelez la CJR, enfin la Cour de justice, pour Édouard Philippe et Agnès Buzyn, quand même, ils étaient passés devant les tribunaux, en tout cas au sens institutionnel du terme, pas les tribunaux pénaux. Et je pense que la question dans toute crise aujourd'hui de l'anticipation et de la justesse d'anticipation, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, est fondamentale pour le communicant et pour le politique, et d'ailleurs même pour les médias. Enfin, j'ai envie de dire.
La preuve, c'est qu'on parle depuis hier de cette absence de décision.
Qu'il
n'y
ait pas une accusation presque en incompétence d'anticipation. Ouais. C'est une nouvelle donne.
Effectivement. Merci Ariane Amadi, experte en communication politique. Merci Mathieu Souquer, essayiste et consultant. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de l'ouvrage 2022, La flambée populiste. Merci d'avoir participé à ce Club de la presse.